Soyez au cœur de VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, merci de démarrer la journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson, à la une de notre émission.
Le leader de Boko Haram promet d'empêcher la tenue des élections au Nigeria le 28 mars.
Et Goodluck Jonathan lui perd un précieux allié, l'ancien président Olusegun Obasanjo dénonce des fraudes.
C'est comme une bombe atomique dans son camp.
La communauté internationale au chevet de la Libye et Washington qui met en garde Moscou dans la crise ukrainienne.
Grogne sociale en Afrique de l'Ouest, grève générale au Burkina Faso, les enseignants dans la rue au Togo.
Cette grève, parce que les travailleurs sont fatigués de poser les mêmes revendications depuis plus de 2 ans. Nous estimons qu'il faille rapidement répondre aux revendications, surtout concernant la grille.
Sans oublier la Minute Éco et le Journal des Sports, le MENA du Niger à la relance devant son public pour la CAN des moins de 17 ans. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Le leader de Boko Haram promet donc d'empêcher la tenue des élections le 28 mars au Nigeria. Dans une nouvelle vidéo diffusée sur Twitter, Aboubakar Shekau revendique également l'attaque du week-end dernier contre Gombe. Rappelons que l'armée nigériane affirme avoir tué Shekau depuis des mois et que l'homme se présentant dans les vidéos ne serait qu'un sosie. Aucune information indépendante n'a jusqu'ici pu confirmer la version des autorités nigérianes.
Sur le terrain en tout cas, les violences continuent. Pour la seule journée de mardi, une quarantaine de personnes ont été tuées dans plusieurs attentats. Phénomène nouveau, le sud du pays, jusqu'alors relativement épargné par les violences préélectorales, est aussi touché. Le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Au cours d'une attaque perpétrée par 3 kamikazes, 36 personnes ont été tuées dans le village de Yamarkoumi, à 4 km de Biou, dans le nord-est, selon un bilan communiqué à l'AFP par une source hospitalière jointe dans cette ville de l'état de Borno. Un autre kamikaze s'est fait exposer à Potoskum, la capitale économique de l'état de Yobe, faisant 2 morts et 13 blessés graves. D'autres violences n'ont pas épargné la campagne électorale dans le sud du Nigeria à quelques semaines d'un scrutin qui s'annonce très disputé. Ces dernières violences ont lieu à moins 1 mois et demi des présidentielles législatives et sénatoriales fixées au 28 mars qui seront suivies 2 semaines plus tard d'élections de gouverneurs et des assemblées des 36 États composant le Nigeria. Ces scrutins ont été reportés de 6 semaines, officiellement pour permettre aux forces nigérianes de se consacrer à la guerre contre Boko Haram. Les autorités nigérianes ont régulièrement exprimé leurs espoirs de succès militaire contre le groupe en s'appuyant sur le soutien de troupes de la région. Les derniers développements sur le terrain accroissent le scepticisme dans le pays, où beaucoup doutent qu'une défaite en 6 semaines du groupe islamiste, actif depuis plus de 6 ans dans ce pays, soit possible.
À Niamey, dans plusieurs villes du Niger, des milliers de personnes ont manifesté en soutien à l'armée dans sa lutte contre Boko Haram. Correspondance d'Abdulrazak Idrissa à Niamey.
Hymne national entonné en chœur par les milliers de manifestants réunis à la place de la Concertation. Lecture, puis remise d'un mémorandum des forces vives de la nation au chef suprême des armées, le président de la République Issoufou Mahamadou.
Monsieur le président de la République,
on n'attaque pas le Niger impunément. Et Boko Haram l'a appris à ses dépens le 6 février dernier. Parce que ce jour-là, nos forces de défense et de sécurité ont écrasé Boko Haram. Inch'Allah, le Niger sera le tombeau de Boko Haram.
Les manifestants se disent plus que jamais déterminés à soutenir les forces de défense et de sécurité engagées dans cette lutte contre Boko Haram. La manifestation a été organisée simultanément dans les autres villes du pays, à l'exception bien sûr de Bifa, qui a été la cible des attaques de la secte, ayant appelé leurs militants à boycotter la marche. Aucun leader de l'opposition n'a été aperçu ce matin dans la foule. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Procès de Karim Ouad à Dakar. Le parquet a requis hier 7 ans de prison ferme et 250 millions de francs CFA d'amende contre le fils et ancien ministre de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Ouad. Cherti Diane Mara, procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, a demandé l'application de l'article 34 du Code pénal sénégalais qui prévoit une interdiction des droits civiques d'un condamné. La parole est aux avocats de la défense ce mercredi.
La Libye fera l'objet d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui à New York. Timothée Donangma et les membres permanents du Conseil ont exprimé leur soutien à une résolution de la crise libyenne.
L'Égypte demande l'autorisation d'une intervention militaire internationale après l'exécution de 21 chrétiens coptes égyptiens en Libye par le groupe État islamique. En plus des raids de son aviation contre les positions des djihadistes en Libye, le gouvernement égyptien a dépêché à New York son ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, pour parler de la situation. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'est exprimé hier à ce sujet sur la radio Europe 1.
Nous voulions que l'Égypte n'intervienne pas militairement et nous ne voulions pas agir à l'intérieur de la frontière libyenne par respect pour la souveraineté et pour le peuple libyen. Mais ce qui s'est passé, c'est un crime terroriste monstrueux que nos enfants soient égorgés en Libye et ne pas agir, non. C'est une forme d'autodéfense acceptée par le droit international, par la communauté internationale et les coutumes.
L'ONU avait autorisé des frappes aériennes durant la rébellion ayant renversé Muammar Kadhafi, ce qui avait permis à l'OTAN de mener des raids ciblés contre les forces libyennes avec pour mandat de protéger les populations civiles.
Les États-Unis allègent les sanctions contre le Soudan. Le département du Trésor américain a décidé de faciliter l'envoi de matériel de communication pour les Américains vers Khartoum, notamment des logiciels de communication, des smartphones et des ordinateurs portables. Annonce faite hier par Donald Booth, le représentant spécial américain pour le Soudan et le Soudan du Sud. Il explique que cette décision permettra d'aider les citoyens soudanais et promeut la liberté d'expression.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, situation toujours tendue ce matin dans l'est de l'Ukraine, à Debaltseve. L'armée ukrainienne est encerclée par les séparatistes pro-russes. Washington met en garde Moscou sur cette violation du cessez-le-feu. Henri Francisque.
Vladimir Poutine a appelé Kiev à ne pas empêcher les soldats ukrainiens de déposer leurs armes. Le président russe, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à Budapest, a souligné qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit. Mardi, l'armée ukrainienne a pour la première fois reconnu l'encerclement de plusieurs de ses unités militaires dans la ville stratégique de Debaltseve, où de violents combats avec les rebelles pro-russes étaient en cours. Face à la dégradation de la situation, Washington hausse le ton. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, le vice-président américain a mis en garde la Russie et condamné fermement la violation du cessez-le-feu. Lors d'un entretien téléphonique cette nuit avec le président ukrainien Petro Poroshenko, Joe Biden a affirmé que si Moscou continuait à violer les accords de Minsk, le prix à payer pour la Russie serait plus lourd. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité une résolution russe pour soutenir les accords de Minsk et demandant aux séparatistes le respect de l'intégrité du territoire ukrainien.
Le carnaval de Port-au-Prince endeuillé. Dans la nuit de lundi à mardi, au moins 16 personnes sont mortes électrocutées par un câble électrique au passage d'un char du défilé. Le Mardi Gras a aussitôt été annulé et remplacé par un défilé silencieux en signe de respect pour les victimes de la tragédie auquel a pris part le président haïtien Michel Martelly. Rothschild François Junior est le porte-parole du gouvernement haïtien.
On va organiser au niveau du gouvernement des funérailles nationales pour les victimes et puis 3 journées de deuil. Et ce que je peux signaler également, c'est qu'au niveau du gouvernement, on a décidé de prendre en charge les victimes. Et donc, c'est l'État haïtien qui va assurer les frais funéraires. Et puis, il y aura quand même un suivi qui sera fait avec les parents des victimes. Donc, les funérailles qui sont prévues pour ce samedi. On s'est réunis avec l'ensemble du gouvernement. Donc, il y a une décision qui a été prise. On va faire appel à une commission d'experts pour nous dire exactement ce qui s'est passé.
Le médiateur des Nations Unies pour la Syrie a indiqué au Conseil de sécurité que le régime syrien était disposé à suspendre ses raids aériens sur Alep. Selon Staffan de Mistura, ce cessez-le-feu localisé durait 6 semaines pour permettre la distribution de l'aide humanitaire dans Alep.
Et le Premier ministre grec a fait fi hier de l'ultimatum fixé à vendredi par la zone euro pour demander une extension du programme d'aide à son pays. Alexis Tsipras a annoncé hier le vote de loi sociale proscrite par ce programme. Et puis les États-Unis et Cuba tiendront entameront le 27 février prochain à Washington leur deuxième cycle de négociations en vue de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Les présidents américains Barack Obama et cubain Raúl Castro avaient, souvenez-vous, le 17 décembre dernier, annoncé un rapprochement diplomatique historique visant d'abord à rouvrir leurs ambassades. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique ce matin. Tout de suite, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Selon des prévisions de l'OCDE, le fret international va plus que quadrupler d'ici 2050. Et les émissions de CO2 qui lui sont imputables augmenteront de 290%, rapporte le journal en ligne Notre Planète Info. Le fret intra-africain verra son trafic augmenter jusqu'à plus de 700%. Les émissions de CO2 imputables au transport de personnes progresseront de 30 à 110%. 70 femmes africaines ont remporté le Award 2015, le prix African Women in Agricultural Research and Development, qui soutient les femmes agronomes sur le continent. Ces lauréates auront un impact sur les petits exploitants agricoles au cours de cette année dédiée à l'autonomisation des femmes. J'ai contacté la chercheuse rwandaise Dansila Mukakamari, lauréate en 2014 pour son projet sur les légumes indigènes très résistants et économiques.
Il ne demande pas beaucoup de moyens et ça va s'adapter aux conditions de vie des populations rurales, surtout les femmes. Et puis, les ménages vont profiter des nutriments dans ces aliments plus économiques que les légumes exotiques.
La Banque africaine de développement a octroyé au Sénégal un prêt de 3,5 milliards de francs CFA pour son projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal, rapporte le journal Le Soleil. 5 espaces numériques sont prévus à Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor.
Place au sport à présent dans cette émission et nous accueillons Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
On parle football en Europe, les débuts des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions hier soir.
Oui, le Bayern Munich en déplacement en Ukraine a été tenu en échec 0-0 par le Shakhtar Donetsk en raison de la guerre civile. La rencontre a eu lieu à Lviv, à 1250 km de la Donbass Arena, enceinte désormais utilisée pour la distribution d'aide alimentaire. Dans l'autre affiche, le PSG qui recevait Chelsea a concédé un match nul, un but partout. Ce soir, la suite de ces huitièmes de finale, les Allemands de Schalke 04 affrontent le Real Madrid et les Suisses de Bâle jouent contre le FC Porto.
Après le fiasco de la CAN en Guinée équatoriale, l'heure est à la recherche d'un nouveau sélectionneur au Burkina Faso.
Oui, 3 noms ont été retenus pour remplacer le sélectionneur belge Paul Put. Plus de détails avec notre correspondant Salif Kabore à Ouaga.
Guernot Traor, ex-entraîneur du Mila du Niger, Stéphane Keshi, champion d'Afrique en 2013 en Afrique du Sud, et Mileva Krajevac, qui a conduit les Black Stars du Ghana à la Coupe du Monde en 2010, sont les 3 retenus par le comité de désignation de la Fédération Burkinabé de football. La pertinence de leur dossier, leur connaissance du football africain ont été les éléments clés qui ont motivé le comité, car ils ont tous dirigé des sélections africaines avec à la clé du renouveau dans leur parcours. Guernot Traor avait conduit le Mena du Niger pour la toute première fois à une Coupe d'Afrique des Nations de football et c'était en 2013, Gabon-Guinée équatoriale. Sous le choix du prochain entraîneur des étalons du Burkina, l'ancien ministre des Sports et des Loisirs Jean-Pierre Palm évoque le cas Stéphane Keshi du Nigeria.
Je dirais d'abord que Keshi, c'est pas un entraîneur qui reste. Je ne parle pas de sa qualité intrinsèque, mais Keshi, c'est un homme à problème.
Quel type de problème, par exemple, il peut causer au Burkina?
Les histoires d'argent. Les histoires d'argent. Keshi, c'est les histoires d'argent. Au Mali, c'était la même chose. À l'époque, il voulait coûte que coûte venir au Burkina. Il m'appelait 4 ou 5 fois dans la journée. J'ai dit, Keshi, c'est pas moi qui recrute, c'est la fédération et tout. On a quand même gardé les contacts. Mais Keshi, c'est un homme à problème.
C'est dans la semaine à venir que le nom du futur sélectionneur sera rendu public. Quant aux entraîneurs locaux, aucun dossier de candidature n'a été déposé au siège de la Fédération Burkinabé de football. Ouagadougou, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Un mot aussi, Bagassi, de la CAN des moins de 17 ans qui se déroule au Niger. Aucun match mardi. Tout à l'heure, dans le groupe A, les Nigériens à domicile tenteront de se relancer face à la Zambie. La Guinée, elle, essaiera de confirmer sa première victoire, mais ce sera dur face au Nigeria. Et le cyclisme au Gabon, la deuxième étape de la tropicale à Missabongo.
Oui, et c'est le Tunisien Rafa Chitoui de Skydive, vainqueur lundi de la première étape, qui a récidivé en remportant cette deuxième étape. Chitoui, 29 ans, a devancé le Français Yohan Gen d'Europe Car et l'Érythréen Tesfom Okuba Mariam. Il conforte sa première place au classement général, loin devant Giovanni Bernardo, 2 minutes 24, et l'Algérien Abdelkader Belmoukhtar, 2 minutes 46.
Merci, c'était Bagassi Koura pour le Journal des Sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, excellent début de journée si vous nous rejoignez. C'est toujours VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission en ce mercredi matin. À moins de 6 semaines de la présidentielle au Nigeria, énorme coup dur pour Goodluck Jonathan. Le président sortant doit faire face à la défection de l'un de ses principaux alliés, l'ancien président Olusegun Obasanjo. Accusant M. Jonathan d'organiser la fraude lors du prochain scrutin, M. Obasanjo a publiquement déchiré sa carte de membre du Parti démocratique populaire, le parti au pouvoir. Pour une analyse, Timothée Donogmaï, adjoint à Kambi Ilupeju de l'Université de Lagos.
C'est comme une bombe atomique hein, dans son camp. Parce qu'il y a quelque temps, le général s'est dissocié de tout ce qu'il fait parce qu'il a nié les compromis qu'ils avaient mis en place pour qu'il devienne président, qu'il n'allait faire que un mandat. Jusqu'à présent, tout le monde accuse l'ancien président comme étant la personne qui a cédé au pouvoir, le président Goodluck Jonathan. Mais tous les associés de Jonathan sont sur l'ancien président et comme s'ils avaient quelque chose de précis à gagner en maintenant le président Goodluck Jonathan au pouvoir.
Qu'est-ce que tout cela signifie pour la candidature du principal adversaire du président Jonathan, Muhammadu Buhari?
C'est un soutien colossal pour lui. Hein. Il y avait des rumeurs que l'ancien président le soutenait, mais visiblement, à partir de la fin de la semaine, on a vu que l'ancien président est vraiment pour sa candidature à la présidence. Et il a souvent dit à tout le monde que même le président Jonathan sait bien qu'il ne sera pas le prochain président du Nigeria. Et vous savez, c'est même quelqu'un qui a dit, bon, à son âge, ce qu'il attend, c'est la mort. Donc, il ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Et si, dit la vérité, c'est être hors d'un parti, il préfère déchirer sa carte publiquement pour leur dire que le Nigeria est plus important que qui que ce soit.
Comment les Nigériens perçoivent-ils l'action des troupes des pays voisins dans leur pays contre Boko Haram?
Le Nigeria n'est jamais choqué parce que les voisins, pour la première fois, se sont rendus compte aussi que Boko Haram, ce n'est pas un fait nigérien. Et parce que le retrait de Boko Haram, c'est surtout dans les pays voisins. Et si aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ces menaces, ça va jouer contre eux aussi et qu'ils prennent déjà une partie positive pour le Nigérian moyen, il vaut mieux avoir des troupes de l'autre côté de la frontière, assurer la sécurité du pays si le président actuel n'en fait rien.
Le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos. Partons pour la Centrafrique où le Conseil national de transition a adopté cette semaine le projet de constitution. Ce texte sera maintenant soumis au gouvernement avant d'être voté par les électeurs par un référendum. L'une des grandes nouveautés, c'est la création d'un Sénat. Pour plus d'explications, Félix Yepassi Zembrou a joint le président de la commission des lois du CNT, Blaise Fleury-Otto.
Au moins dans cette constitution, on a pu régler un certain nombre de problèmes. Tenons par exemple à la question des principes de la République, à la question de la limitation du pouvoir de nomination du président de la République, quitte est autorisé bien évidemment à procéder à certaines nominations, mais pour d'autres nominations, il sera tenu de respecter la liste fixée par la loi. Cela voudrait dire qu'il devra donc obtenir l'autorisation ou l'avis du Congrès, puisqu'il y a le Sénat qui fait partie des institutions républicaines, mais en plus, pour tout ce qui est contrat touchant aux ressources naturelles de la République centrafricaine, il faudrait absolument l'avis de l'Assemblée nationale avant que les contrats ne soient signés.
Autrement dit, Monsieur Blaise Fleury-Otto, la nouveauté dans cette proposition de loi sera donc la mise en place du Sénat.
Il n'y a pas que la mise en place du Sénat. Il y a des garanties que nous avions mises pour éviter aux futurs chefs de l'État ou aux futurs dirigeants de notre pays d'abuser de leur autorité. À titre d'exemple, lorsque les institutions sont mises en place, il y a un délai constitutionnel par rapport auquel toutes les institutions doivent être mises en place. Mais en République centrafricaine, il y a encore quelques années, il y a par exemple l'institution Haute Cour de justice devant laquelle peuvent être traduits soit le chef de l'État, soit les membres du gouvernement ou les députés qui n'avaient pas été mis en place de manière effective. Et ça a posé un énorme problème quant aux questions de forfaiture ou de haute trahison de certains dirigeants de notre pays.
Blaise Fleury-Otto, président de la commission des lois au CNT, il était joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Burkina Faso, les syndicats réunis au sein de l'unité d'action syndicale ont entamé depuis mardi une grève générale de 48 heures. Force est de constater que le mouvement semble n'avoir été que partiellement suivi hier dans le pays. Bagassikoura a joint Bassolma Bazié. Il est le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina.
Le premier élément concerne une revendication qui porte sur la baisse du prix des produits pétroliers à la pompe. Et le deuxième élément, c'est la relecture de la loi 013 qui porte sur les emplois et les agents de la fonction publique et laquelle relecture devait aboutir à la relecture de la grille salariale de la fonction publique. Nous avons demandé à l'État de prendre des mesures pour poursuivre tous les auteurs et commanditaires de crimes économiques et de crimes de sang.
Il y a quelques semaines, le gouvernement avait quand même baissé le prix du carburant. C'est pas suffisant pour vous?
Oui, effectivement, nous avons fait des calculs techniques sur les deux tableaux, structurels et conjoncturels. Nous avons estimé que depuis 2012, les travailleurs ont consenti un gros sacrifice parce qu'en ce temps, le prix du baril au niveau international était à 130 dollars. Aujourd'hui, le prix au niveau international se négocie autour de 49 dollars. Et le mouvement syndical en tenant compte que nous venons de sortir d'une situation insurrectionnelle, dont il peut avoir des difficultés, le mouvement syndical a demandé qu'au moins il y ait une baisse de 100 francs CFA. Donc nous ne sommes même pas partis jusqu'à 200 francs CFA.
Alors, avec tous les points que vous avez énumérés, est-ce que ce n'est pas trop demandé à un gouvernement de transition qui n'a que quelques mois?
Merci bien, ce n'est pas trop demandé à un gouvernement de transition pour la raison qui est simple que, premièrement, nous ne demandons pas à l'État d'enlever de l'argent d'une caisse pour le moment. La baisse du prix des hydrocarbures, c'est une revendication qui a été introduite depuis 2006 et avec le régime déchu, nous avons déjà eu des accords. On aurait pu comprendre que l'État nous approche de façon sérieuse et demande davantage d'argumentaires s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Du reste, ça nous étonne parce que même si les ministres ont changé, les techniciens au niveau des ministères n'ont pas changé. Nous avons constaté que les gouvernements qui ont été mis en place dans la période transitoire, eux-mêmes ne jouent pas sans jeu. Et ceux qui constituent le Conseil national de transition, certains se sont octroyés, sinon tous, un salaire de 1 778 000. Même si suite à une grogne, ça a été amené autour de 800 000, nous estimons que c'est des gens qui connaissent bien les réalités du pays. S'ils se sont octroyés ces sommes colossales, ça veut dire qu'il y a de l'argent dans le pays. Et quatrième élément, il n'y a que le Premier ministre, le gouvernement et les ministres jusqu'à présent, étant donné qu'ils sont arrivés dans une transition, personne ne sait combien ils touchent. Alors, s'ils estiment qu'il y a des textes qui sont appliqués, qui sont des textes qui ont été combattus depuis longtemps, et que le prix de vie de l'État n'a pas été réduit, ce n'est pas aux travailleurs et aux pauvres populations auxquelles on peut plus continuer de demander de serrer la ceinture, une ceinture sur laquelle il n'y a plus d'espace pour passer de trop.
Bassolma Bazié, secrétaire général de la CGTB, il était joint à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga. Et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Autre grogne sociale au Togo, le gouvernement a décidé la fermeture des établissements scolaires. Une riposte à une manifestation des élèves dans le pays en soutien à leurs enseignants en grève. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kyle Lawson.
Depuis sa mutation en centrale syndicale, la synergie des travailleurs du Togo STT durcit le ton. Après une grève de 72 heures la semaine passée, la STT rempile cette semaine avec un nouveau débrayage de 72 heures qui commence mercredi 18 février. Mais déjà ce mardi, il y a eu un sit-in des fonctionnaires sur leur lieu de travail. Docteur Gilbert Tcholignanou, porte-parole de la STT, revient sur la raison de cette grève.
Cette grève, parce que les travailleurs sont fatigués de poser les mêmes revendications depuis plus de deux ans. Nous estimons qu'il faille rapidement répondre aux revendications, surtout concernant la grille qui devrait être redressée sur les deux SMIC. Et donc, cela fait un ajout de 280 points à intégrer donc à la grille. Également, c'est pour protester contre les intimidations dont fait montre le ministère de l'Éducation, enfin, de l'enseignement primaire et secondaire, à l'endroit de certains enseignants. Les six autres centrales syndicales nous soutiennent. Et donc, cela voudrait dire que si les choses n'évoluent pas, la prochaine étape risque d'être une grève générale.
Le refus des enseignants du public de dispenser des cours aux élèves a fait déferler ces derniers dans les rues qui sont allés déloger leurs camarades des écoles privées et confessionnelles.
Nos camarades des écoles privées sont aussi des élèves comme nous. Et nous suivons les mêmes cours. On compose les mêmes épreuves et on va passer les examens dans le même moment. Si nous, on les laisse suivre les cours et que nos cours qui sont sautés comme fait et qu'à l'examen, ces cours reviennent, entre eux, nous, qui profitent? C'est eux, parce qu'on ne peut pas payer les écolages, payer les droits d'inscription et ne pas suivre les cours.
Est-ce qu'on a dit qu'on fait la grève? Le gouvernement doit payer au maître pour que le maître nous enseigne.
Ils ont fait la grève, c'est pourquoi on n'a pas fait le travail. La grève, c'est pas bon pour laisser les enfants en divagation.
Depuis le mois de janvier, la STT organise chaque semaine deux ou trois jours de grève. Le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, analyse ces mouvements sociaux.
Que les gens demandent qu'on améliore leurs conditions de vie et de travail, leur rémunération salariale, quoi de plus légitime? Mais combien de fois vous avez vu ce qu'ils revendiquent là? Être en train de mettre le même accent sur les infrastructures collectives, sur les équipements collectifs. Si les salaires des enseignants s'améliorent et qu'on continue à avoir des apatam et des hangars à travers le territoire, on continue à avoir des enseignants volontaires qui sont pris en charge par les parents d'élèves. Quand il y a des moyens, il faut trouver le juste milieu entre améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Et quand on dit conditions de travail, ça inclut les infrastructures, les équipements, le matériel didactique et surtout dans les hôpitaux. Dans quel pays on a vu une grève dans le secteur médical sans service minimum?
On se rappelle qu'entre mars et avril 2013, des situations similaires se sont produites avec la tuerie de deux élèves à Dapaon, dans l'extrême nord du pays. Anselme Sinandar, élève en classe de 6e et Duti Sinaling en classe de 1e, ont trouvé la mort suite à une manifestation réprimée par les forces de l'ordre en avril 2013. Kailosan Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le film africain Timbuktu en lice pour les Oscars 2015. Des artistes comme la chanteuse Angélique Kidjo et le réalisateur Abderrahman Sissako sont internationalement reconnus. Et la question de la semaine, les artistes africains ont-ils un rôle à jouer dans l'essor et la stabilité du continent? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Revenons à présent sur l'un des plus gros vols cyberbancaires de l'histoire, potentiellement des dizaines de milliers de victimes et plus d'un milliard de dollars évaporés. Une société russe a révélé cette arnaque qui met en lumière les failles de la sécurité bancaire sur Internet. Salwa Jaafari a joint Nicolas Arpagian de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice à Paris.
À ce stade, il s'agit de signaler un mode opératoire de pénétration de systèmes d'information. En clair, un certain nombre de salariés dans des institutions financières ont reçu des emails avec des pièces jointes contaminées. Simplement, le message qui leur a été envoyé avait l'apparence d'un message sérieux, d'un message crédible et professionnel, et donc ils étaient incités à cliquer sur cette pièce jointe contaminée et qui donc, à l'insu du destinataire, installait un programme malveillant.
Quels sont les outils utilisés par les agences gouvernementales, les banques, pour se protéger de ce genre d'attaque?
Il faut beaucoup de modestie en matière de cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de modes d'attaque extrêmement évolutifs. Par exemple, lorsque un salarié d'une entreprise qui compte des dizaines de milliers de salariés à travers le monde clique sur une pièce jointe pensant qu'il s'agit d'un document PDF ou Word bien connu des salariés d'entreprise, il ignore qu'il fait là une manipulation qui va s'avérer dangereuse peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, une fois que le logiciel malveillant va s'activer. Donc il est très difficile de considérer que l'on peut établir des barrières, des protections comme on le ferait avec des grillages ou des murs d'enceinte sur un château fort. Là, il s'agit au contraire d'avoir les moyens de surveiller les comportements anormaux dans l'extraction, la sortie des données de l'entreprise et de faire en sorte que chacun a bien accès aux données auxquelles il a besoin dans le cadre de son activité et qu'il n'y a pas de sortie anormale ou intempestive d'informations à l'extérieur du système informatique de l'entreprise ou de l'administration.
Nicolas Arpagian était joint à Paris.
Salut les amis, ici Roger Montoux sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montoux, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde assurée par Anne Albertson et John Ellison. Et Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons tous les Gambiens qui nous écoutent. Le 50e anniversaire de l'indépendance. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.